minimalisme un peu confus ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question du Vietnam, du Japon, de la Belgique, de New York, de gestes, de matériaux et même de Rosetta avec Emmanuel Huyn qui signe Tozai, une pièce qui fait écho 20 ans plus tard à Mua, son premier passage à la chorégraphie. Emmanuel Huyn tout en paillettes et en lurex en hommage certainement à notre autre invité, Michel François. Manu Farine.
Portrait d'une danseuse et chorégraphe pour qui danser est d'abord agir.
19h30, la chronique Vanity Fair du mois d'Anne Boulay. Ce soir, à nos programmes.
Je ne sais pas encore, je vais improviser.
Très bien, parfait.
Votre pull m'inspire énormément.
Parfait, on le verra pas. 19h35, je l'ai acheté en viager, c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui au bureau. 19h35, plateau magnétique avec Michel François, co-auteur de l'exposition Fila et Chouri, un titre aux résonances spatiales pour celui qui se prend pour un sculpteur, c'est lui qui le dit, Manu Farine.
Oui, qui dit se prendre pour un sculpteur et pour qui assembler importe plus que produire.
19h50, la session live du mardi et ce soir, une session cavale avec Roby.
Roby, elle est ce soir dans le studio 108 avec ses musiciens. Ils interpréteront en direct Nuit de fête.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, que l'on ouvre sur le son du jour.
Et voilà que la profession cinématographique est très divisée en ce moment, un conflit dur. Pourquoi ? À cause d'une convention collective qui entrera en vigueur en octobre, signée par les poids lourds de la production et des syndicats de salariés du cinéma. Elle va réguler un secteur jusqu'ici en marge du droit social, grille de salaire, minima sociaux, heures supplémentaires, travail de nuit, etc. Le droit du travail arrive sur les plateaux de cinéma comme dans tous les secteurs.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et vous renouez avec une ancienne tradition, il ne date pas d'hier.
Non, il date de juillet 2013, on est sur France Inter et donc la fameuse convention collective des métiers du cinéma va bientôt entrer en vigueur. Cette convention qui fixe enfin notamment des salaires minimums et des conditions de travail réglementées pour tous les métiers du cinéma avait fait l'objet, donc on l'a entendu, d'un vrai combat à l'époque, puisqu'on estimait notamment qu'elle allait tuer le cinéma indépendant à petit budget. On considérait que 70 petits films français par an ne pourraient dorénavant voir le jour. Et donc un avenant, c'est-à-dire une forme d'extension à cette convention, avait donc été spécialement rédigé pour ce cinéma-là. Et elle avait été signée par les syndicats de salariés qui tous voulaient eh bien, que les conditions salariales et la durée de travail des grosses productions soient étendues à tous les tournages, même les petits. Dans le camp des opposants, on avait les producteurs de films dits fragiles. Et seule une organisation de producteurs, l'API, qui regroupait notamment Pathé, Gaumont, UGC, MK2, avait signé cette extension. Ça avait suffi pour la faire passer. Les petits producteurs avaient leur déposer un recours devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui a fini aujourd'hui par leur donner raison. Cette convention collective ne s'appliquera en tout cas jusque-là donc plus aux films de petit budget.
On passe tout de suite au dossier du jour. Dans quelques heures commence à Pékin le procès de l'écrivain, journaliste et essayiste Wang Zhe-rong, plus connu sous le nom de Ti Liu. Un procès particulièrement suivi car il est l'une des plus anciennes voix dissidentes en Chine.
Tout à fait, puisque Ti Liu a plus de 81 ans. Il est né en 1933. Il a d'abord été un fervent partisan de la révolution avant finalement de critiquer la période maoïste. Écrivain, essayiste, fondateur de sa propre maison d'édition, il avait toujours vécu en Chine tout en refusant de se taire, comme l'explique Benjamin Ismail, responsable Asie-Pacifique de Reporters sans frontières.
C'est un écrivain, un ancien journaliste et dissident qui a passé une vingtaine d'années en prison à l'époque de la campagne contre les droitistes, comme on disait, sous Mao. Donc c'est quelqu'un qui s'est toujours engagé pour la liberté, pour ses concitoyens. Et il avait aussi lancé sa fondation pour aider les acteurs de l'information en Chine, les journalistes, mais aussi blogueurs. Et il avait écrit une critique de l'ancien chef de la propagande, Liu Yunshan, et il avait également comme projet de récolter des informations de personnes ayant vécu le maoïsme, et de compiler ces informations en un recueil, et c'est également ce travail qui lui a valu les ennuis qu'il connaît aujourd'hui.
Ti Liu avait en effet lancé plusieurs projets d'envergure en se pensant protégé par son grand âge.
Oui, en effet, il pensait qu'il pourrait au moins échapper à des menaces physiques. Hein. En réalité, non, puisqu'il a été arrêté en septembre dernier pour, je cite, « gestion d'une entreprise illégale », il s'agit en l'occurrence de sa maison d'édition, et appel aux troubles de l'ordre public. Son ordinateur, ses livres, ses manuscrits ont été saisis et depuis, il est retenu au secret dans une prison de Pékin dans des conditions extrêmement difficiles. Il souffre en effet de plusieurs gros problèmes dus à l'âge, de tensions, de problèmes urinaires. Mais depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping, le pouvoir central chinois semble décider à ne plus rien laisser passer, comme l'explique Benjamin Ismail de RSF.
son âge dénote une certaine cruauté, puisque les autorités ont refusé les demandes de l'avocat de le libérer en raison de son état de santé. Mais il y avait d'autres dissidents, d'autres blogueurs avant lui qui ont été carcérés dans des conditions mauvaises. Je pense au poète Li Bifeng. Le tournant, il s'est opéré dès 2011. Effectivement, il y a des vagues successives d'arrestations et des moments de tension au moment des commémorations de Tiananmen chaque année en juin. Donc les événements à Hong Kong ont aussi constitué un moment de tension très forte et ont entraîné de nombreuses arrestations de journalistes, d'écrivains, de commentateurs politiques. Donc on est dans un renforcement de la censure, du contrôle de l'information.
RSF donc, mais aussi Peine Internationale qui défend, je le rappelle, une littérature libre, demande en vain la libération de Tie Liu depuis le mois de septembre, ainsi que celle de son jeune assistant qui comparait avec lui. Peu d'espoir sont permis car, pour ne pas attirer l'attention des autorités, on choisit de faire débuter ce procès demain, donc, alors que viennent de débuter les grandes vacances du Nouvel An en Chine. Et ce procès se déroule en province et il risque d'être très rapidement expédié.
Merci Zoé, on passe tout de suite au bref.
Et l'on ouvre avec la bibliothèque Inyon de Moscou, l'une des plus importantes de Russie, qui, je vous le rappelle, a été dévastée en janvier par un très grand incendie. Les travaux de déblaiement viennent de commencer. Les experts revoient les dégâts largement à la hausse. Entre 3 et 5 millions de livres auraient disparu dans les flammes, ce qui correspond à 30 ou 40% des réserves. La phase de restauration des documents a également commencé. Elle est évaluée à 154 ans par certains experts.
Deux héritiers d'un marchand d'art juif attaquent l'Allemagne pour spoliation.
Les requérants vivent aux États-Unis. Ils ont décidé de saisir une cour fédérale américaine après 6 ans de négociations infructueuses avec l'Allemagne. Ils attaquent le pays pour spoliation, demandent la restitution du trésor des Guelfs, une des plus grandes collections d'art religieux du Moyen-Âge que leurs propriétaires juifs ont été contraints de vendre à très vil prix en 1935. Cette action de justice cible à la fois le gouvernement allemand et la Fondation pour l'héritage culturel prussien qui conserve donc cette collection dans l'un de ses musées berlinois.
Nouvelle grève à la National Gallery de Londres.
Près de 200 grévistes perturbent le fonctionnement du musée depuis hier. La grève, c'est presque une guerre, pourrait se prolonger jusqu'au week-end. Ils protestent contre la privatisation du musée, mais aussi contre le licenciement d'un des syndicalistes du musée, remercié le soir de la première grève qui avait lieu au début du mois.
Et la dernière,
c'est une histoire de crucifixion, de pop star et d'église ouverte. Et oui, c'est une histoire où le héros s'appelle Pete Doherty, que vous connaissez peut-être, leader des Baby Shambles, connu pour ses frasques, qui, après avoir disparu des radars pendant quelques mois, il était très sage, vient d'être retrouvé à Londres dans une exposition. Et oui, on le retrouve dans une exposition lui-même, mais pas tout à fait lui. Exposition intitulée « Le chemin de croix », rétrospective, qui rassemble les œuvres de 20 artistes britanniques, dont l'objectif est de représenter sous diverses formes le Christ. Et l'une de ces œuvres représente donc Pete Doherty, grandeur nature, crucifié.
Avec un menton cette fois, parce qu'il me semble qu'il n'en a pas vraiment.
Oui, et puis il n'a pas non plus de vraies dents, mais bon, ça c'est un autre débat. L'œuvre est titrée « Pour l'amour de Pete », elle est signée Nick Reynolds. Elle est exposée jusqu'au 15 mars dans une église, figurez-vous. La statue, elle a été créée en 2008, à l'époque, explique le sculpteur, Pete était crucifié par les médias. Je m'en suis inspirée pour créer cette œuvre. Voilà, alors entièrement constituée de marbre et vendue quand même 45 millions d'euros. 45 000 euros, pas millions, excusez-moi.
Voilà, parce qu'il
faut pas non plus rigoler. Et alors, le truc le plus surprenant là-dedans, c'est que le révérend de l'église, Stephen Evans, a félicité cette démarche artistique profonde, dit-il. Il explique que Pete Doherty représente la bataille contre la toxicomanie, contre un mode de vie autodestructeur. Et il espère, je cite, que les gens pourront à réfléchir à la passion du Christ et à la résurrection grâce à cette jolie statue.
Voilà qui doit inspirer nos invités de ce soir. Michel François, non, j'ai l'impression.
Non, je ne suis pas pour la crucifixion.
Très bien, artiste pour autant. Emmanuel Huyn.
Pour la crucifixion,
ouais.
Ça dépend qui.
Ah, quand même. Très bien. Peut-être une question quand même sur la situation artistique.
Oui, peut-être sur la situation des artistes, éventuellement des centres d'art en Belgique. Ici, on souffre pas mal. On a l'impression que tous les mois, on annonce une nouvelle coupe ou une nouvelle fermeture d'un centre d'art. Le dernier en date, c'est celui de Chelles. Est-ce que la situation est similaire en Belgique ?
Mais la situation n'est pas similaire dans la mesure où il y a très très peu de centres d'art en Belgique. Il n'y en a jamais eu beaucoup. À Bruxelles, il y en a principalement un, le Wills. Et donc, non, je sais que les musées, y compris l'Opéra à Bruxelles, on a opéré des coupures de jusqu'à 30% des budgets des institutions culturelles. Donc c'est encore pire qu'en France, à mon avis, oui. Mais c'est un nouveau gouvernement. Là, on est passé quasiment à l'extrême droite là, de notre côté. Donc, ils se sont associés aux libéraux. Et donc, la culture n'est pas exactement la tasse de thé de ces messieurs. Quoi, voilà.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Geste avec vous, Emmanuel Luynes, danseuse, chorégraphe, un parcours d'interprète qui commence à la fin des années 80, puis passage à la chorégraphie au milieu des années 90, avant de diriger le CNDC d'Angers que vous avez quitté en 2012. Vous êtes actuellement en tournée avec votre dernière pièce, Tozai, un titre en forme de cri emprunté au Bunraku, hein, ce théâtre de marionnettes japonais. Qu'est-ce qu'un tel cri signifie ?
Alors, c'est pas Tozai, c'est Tozai !
Ah oui, en effet.
Donc c'est un cri mouvement qui signifie d'est en ouest au Japon et qui métaphorise aussi le mouvement du rideau d'est en ouest. Donc Tozai, c'est à la fois quelque chose qui est proféré, un cri, et puis un mouvement à la fois. Donc c'est pour ça aussi que j'ai eu envie que ça devienne le titre de cette pièce mouvement d'ouverture.
Qu'est-ce que ça vous permet d'incarner sur un plateau, un titre pareil ?
Cette question-là de mon intérêt pour ce qu'il y a avant les choses, donc au spectacle, l'ouverture avant l'événement. Je me suis aperçue que, je ne sais pas, mes 15 années de spectatrice japonaise...
Oui, parce que vous allez régulièrement au Japon hein, depuis quelques temps. Ouais.
Depuis quelques temps, depuis 1994, donc 20 ans. Mais c'est quelques temps, en effet, à l'échelle d'une petite vie. Et j'ai remarqué que mon émotion était aussi grande avant que pendant, notamment à cause de l'effeuillage de rideaux du rituel que les Japonais organisent pour qu'on voit quelque chose. Et je me suis dit, au bout de 20 ans, je suis quand même assez lente. Bon, j'aime beaucoup ce moment où on nous montre comment ça s'effeuille. Il faudrait que je fasse quelque chose de cette émotion-là. Donc Tozai me permet de mettre en scène la question de l'ouverture, de ce qu'il y a avant le spectacle, de ce qu'il y a avant les choses.
Le bunraku, c'est une forme spécifique du théâtre japonais qui met à découvert les manipulateurs, des marionnettes, qui met la musique et le narrateur à distance. Je me demandais en quoi cette forme qui éclate les éléments sur le plateau pouvait faire écho à votre propre histoire de la chorégraphie chez vous. Vous qui avez travaillé par exemple à un moment donné en mettant la musique, puis la chorégraphie, avant de les rejoindre.
Mais voilà, c'est exactement ce que vous relevez. Vous connaissez bien, et à la fois mon travail, et aussi l'histoire des œuvres. C'est-à-dire que le bunraku, d'une certaine façon, c'est comme un gant retourné où tous les agents du geste chorégraphique ou théâtral sont déployés dans l'espace. Et finalement, c'est l'œuvre moderne par excellence. C'est-à-dire que le son, le shamisen, la musique, le texte lui-même, le manipulateur et la chose manipulée qui devient... le comédien ou la chose sont déployés et non rassemblés comme dans le théâtre classique occidental. Donc d'une certaine façon, permet toutes les opérations, nous met face à ce qu'est le sens de cette chose. Donc la marionnette, on lui fait dire, le conteur lui fait dire, il prend tous les rôles, lui fait dire tout ce qu'il doit dire. Donc d'une certaine façon, nous, enfin quand je dis nous, chorégraphe en mettant en scène à la fois en déconstruisant ou en mettant la lumière d'un côté, la musique de l'autre et les danseurs, je dirais, au même niveau sur un plateau, finalement, je me suis aperçue que nos opérations étaient assez similaires pour reconstruire le sens qu'on avait nous-mêmes à construire.
Manu Farine.
Alors, autre géographie, mais pas tout à fait, Emmanuel Huynes, vous menez en ce moment un projet un peu particulier, une sorte de portrait. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Sorte de portrait de la ville de New York à travers ses habitants, ses espaces et les liens qu'ils entretiennent avec eux. Parmi les portraits, un chauffeur de taxi, le directeur de l'American Center of Architecture et surtout un couple d'artistes chorégraphiques japonais émigrés aux États-Unis à la fin des années 70, en 76. Quelle est leur danse ? Pourquoi être allé les chercher, eux ?
Alors, c'est un lien que je fais entre mes attractions japonaises, justement, toute cette génération post-Hijikata, post-années 70, qui ont des parcours très singuliers après Hijikata et Kazuo Ono, toute cette génération Tanaka-min, Komuro Bushi ou Akira Kasai, avec lequel je dansais Spiel, sont vraiment une génération d'artistes très très singuliers qui m'intéressent. Et en arrivant à New York, quand on m'a proposé, quand Sophie Claudel, au service culturel de l'ambassade, m'a proposé il y a 2 ans de faire une carte blanche sur ou à partir de New York. Je me suis dit, mais il n'y a pas un Japonais qui traîne aux États-Unis.
Bien sûr.
Donc c'est très mal dit. Mais est-ce que quelqu'un de cette génération ne serait pas arrivé là et comment ? Puisqu'au fond, c'est le pays occupant. Donc oui, on m'aiguille sur Eco et Coma. Et je tombe plutôt sur Eco, puisque Coma, à ce moment-là, est blessé. Et je rencontre une femme tout à fait incroyable qui lie absolument la question politique, la question de l'histoire de son pays, donc de la défaite de la Deuxième Guerre mondiale, la question de la danse et de l'activisme, complètement en un seul geste. Voilà pourquoi je me suis intéressée au départ pas au travail, très différemment d'Akira Kasai qui me fascinait comme danseur-chorégraphe. Eko, je ne la connaissais pas, c'est plus une femme exilée artiste, une rebelle permanente. Et du coup, là, je suis à nouveau tombée dans des filets japonais.
Et quelle est la danse qu'elle pratique encore aujourd'hui ?
C'est sa danse, et c'est de la danse buto, on peut dire, c'est tout à fait ça. Après, ils sont vraiment émigrés depuis 40 ans. Donc, elle est vraiment, on va dire, sur une esthétique qu'on pourrait reconnaître, nous, buto. Mais je dirais que chaque geste est un geste absolument, enfin, non pas contrôlé, mais le contexte de là où elle agit, enseigne et pourquoi elle le fait. Elle est vraiment quelqu'un d'en colère ou d'exilé ou de, comment dire, elle a choisi de rester dans ce pays de l'occupant pour rester d'une certaine façon étrangère et toujours dans une condition d'artiste qui questionne là où elle est. Et en effet, elle est toujours un peu de travers.
Elle danse où ?
Alors bon, ce sont devenus des icônes quand même, ce couple. Alors ils ont eu, en effet, une rétrospective au MoMA il y a 3 ans, mais sinon elle danse, là récemment elle a fait un projet dans la gare de Philadelphie, sur 24 heures, où elle danse dans la salle d'attente nord de la gare. Elle danse à la fois dans des universités ou aussi dans des lieux comme Dance Space à New York. Donc, je dirais qu'elle fait tous les formats, à la fois les formats les plus invisibles comme les plus visibles, toujours en essayant de comprendre où est-ce qu'elle fait un geste et pourquoi elle le fait.
Manu.
Vous-même, vous vous êtes formée au buto, Emmanuel Levin ?
Je ne me suis pas formée au buto. Je n'ai pas d'attraction pour l'esthétique qui a été d'une certaine façon adoubée par l'Europe, parce que je me suis mise à lire sur le buto au moment où j'ai dirigé l'école du CNDC pour comprendre pourquoi je n'aimais pas au départ ce que je voyais. Puis après, je me suis vraiment laissée attraper par pourquoi il faisait ce qu'il faisait, et particulièrement les artistes buto au Japon, pas spécialement ceux qui étaient largement réceptionné ici en France, nous avons validé une forme d'esthétique du buto. Et c'est pas finalement, en suivant les cours de ma propre école, j'ai bien compris que c'était à la fois une activité extrêmement critique, qui reprenait des sources européennes, c'est-à-dire l'expressionnisme allemand, et aussi des sources très proches de Nijinsky. Et Jikata a envoyé ses danseurs dans les cabarets, à partir des images du Baron de Meyer. Et au fond, tous les parcours sont très singuliers de ces artistes. Donc, je ne me suis pas formée à cette esthétique, je me suis formée à leur pensée extrêmement singulière et tout à fait émancipée. Et comme l'émancipation, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse enseigner dans une bonne école de danse contemporaine, eh bien oui, je me suis formée à la pensée buto.
Michel François, tout à l'heure, on parlera de votre propre parcours, mais vous avez collaboré plusieurs fois, 3 reprises avec Anne-Thérèse Kersmaeker, donc chorégraphe et danseuse belge. Je me demandais quel spectateur de danse le plasticien que vous êtes est.
Il se fait que c'est d'abord une affaire, disons, familiale, la danse, puisque ma maman était danseuse, elle était sculpteur et danseuse. Et j'ai vu beaucoup ma maman danser dans l'atelier de mon père, qui était lui-même peintre. Donc voilà, ça a commencé comme ça.
Bon, elle dansait, mais sans public. Elle dansait comment ? Sans public, enfin, elle dansait.
Oui, elle répétait, elle dansait comme ça, ou elle dansait pour mon père qui la dessinait, etc. Donc ça crée des vocations d'artiste de voir ça. Je me suis dit que c'était un bon job. D'être dans l'atelier et d'imaginer que les femmes viendraient danser autour de soi.
Voilà. Ça a marché ?
Non, parce que pas du tout. Parce qu'entre-temps, il n'est plus, les femmes ne dansent plus dans les ateliers, les artistes sont solitaires ou travaillent avec des producteurs lointains, etc.
Donc... Mais les femmes dansent avec des sculptures, c'est ce qui est arrivé avec Emmanuelle Huyn, autour d'une sculpture et sur une sculpture d'Éric Dietmann.
Oui. Oui, oui, en effet. Alors là, c'est loin aussi, c'est 97. Et Dietmann veut balancer 10 tonnes de terre sur une danseuse. Ou faire qu'une danseuse se balance sur 10 tonnes d'argile.
C'est pas la même chose. Hein.
Mais pour lui, je ne sais pas. Et je me souviens d'Éric, chapeau, cigare. Et j'avais demandé à Catherine Contour de m'aider, parce que 10 tonnes de terre d'argile, on n'en fait rien. Et surtout, l'école d'art de Blois venait malaxer la terre une semaine avant que... Donc il avait accroché des cordes, une semaine avant qu'on fasse Jane et Tarzan pour aller marquer de nos pieds ou de nos épaules ou de nos coudes. Voilà, c'était un projet qui était assez drôle, mais c'est vrai qu'il essayait, en fait, ça s'appelait le modèle, hommage à Rodin. Il essayait de faire en sorte que les danseuses se balancent sur des mottes de terre, donc soit très phallique, soit le cube, le parallélépipède, le cube. Il y avait des hommages aussi à Mario Mert avec un igloo. Enfin, il aimait vivre, cet homme.
Manu.
Emmanuelle Huyn, comme à tous nos invités cette saison, on vous a demandé de choisir un son et vous nous avez suggéré celui-ci.
Born in hot damn Mississippi, surrounded by for walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city.
L'identification de ce son, Emmanuelle Huyn, et puis pourquoi l'avoir choisi?
Alors, pour être tout à fait sincère, c'est Josela Contencin qui filme les films des portraits des habitants de New York, avec lequel je travaillais ce matin. Et comme je suis toujours aussi, je dirais, exogène, vraiment au milieu de la musique de tous les jours, je me souviens que vous m'avez demandé quelques années...
Qui était Michael Jackson? Et non. J'ai eu presque une non-réponse.
Non, vous m'aviez dit Justin Timberlake.
Ah oui, c'était, oui, d'accord. Et oui,
j'avais dit, mais je ne connais pas, et je me souviens que ça avait beaucoup fait rire...
Mathieu Conquet qui était là parmi
nous. Oui, Raïs Hakim qui était derrière les écrans, enfin derrière son appareil. Donc voilà, c'est Stevie Wonder avec Leaving the City. Et en fait, Phil Moore, le chauffeur de taxi que nous avons filmé et dont on regardait ce matin le montage dans l'atelier de Josela Contencin à Rennes, écoute beaucoup Stevie Wonder. Donc on a fait un portrait de leur rapport, du rapport de cet homme à son véhicule, à l'architecture, mais aussi qu'est-ce qu'il fait dans ce taxi, qu'est-ce qu'il écoute comme musique. Donc il écoute beaucoup Stevie Wonder.
C'est pas handicapant pour une danseuse chorégraphe de ne pas être au fait de la musique?
Alors, soit on a des bons amis.
Et vous en avez, j'imagine.
Et voilà, je me souviens de Christian Rizzo qui m'a beaucoup aidé pour des bandes son où j'étais seule en studio. Mathieu Dose est un excellent ancien danseur, chorégraphe, et qui fait la plupart de mes bandes son depuis quelques années. Voilà, je dirais qu'il y a des compétences et des gens extraits. Ou Pascal Quesnot aussi qui est dans le travail. On ne creuse pas partout, et c'est vrai que je ne creuse, c'est pas que je creuse pas, c'est que je crois que j'arrive plus, j'ai pas le temps. Mais c'est une fausse excuse, parce que par ailleurs, je reste proche et je reste curieuse, par exemple, de qui travaille en art visuel. Je n'arrive pas à être dans la même facilité ou curiosité, peut-être avec le son et la musique.
Le rendez-vous, la chronique.
Eh bien, de musique, il va en être question tout de suite. Ah, Michel François, pareil ?
Quoi ? Non, je connais le nom parce que ça circule, mais je ne connais pas la musique non plus de ce monsieur...
Stevie Wonder ?
Non, Timberlake.
Justin Timberlake.
Ouais, ouais, ouais.
Les deux mauvais.
On va les réinviter, mais Michael Jackson quand même.
Oui, bien sûr. Non, ça j'adore.
Non, mais ça, je fais exprès, Emmanuelle Huyn. Il va être question tout de suite de musique avec la chronique mensuelle de Vanity Fair d'Anne Boulet, qui en est la rédactrice en chef, en partenariat donc avec le magazine. Aujourd'hui, alors, de quoi va-t-il s'agir? Ou de qui?
Alors, est-ce que vous aimez la bière, Laurent?
Non.
Bon, ça n'a aucune importance.
Mais le saké, oui, en fait.
Ah, d'accord. Ah,
très saké en ce moment.
Ah bon, écoutez, campagne. aucune importance en même temps, parce que ce dont je vais vous parler n'a qu'un lointain rapport avec la bière, sinon le nom. Vous ne connaissez peut-être pas Daphné Guinness.
Oui, mais fait, ça, je... Oui.
Et c'est à la fois normal et dommage. Déjà, physiquement, c'est un croisement entre la chanteuse Cher. Vous la connaissez, la chanteuse Cher?
Oui.
Oui. Oui, quand même.
Mes filles. Mes filles.
Et l'excentrique Marquise Cassati. La Marquise Cassati, oui, mais non. Elle ne chantait pas. Non. Si on parle d'elle aujourd'hui, c'est justement parce que cette spectaculaire figure de la vie sociale internationale sort un disque le mois prochain et que le premier extrait qui a circulé sur YouTube l'été dernier était très prometteur. D'abord parce qu'elle est beaucoup plus talentueuse que son image d'aristo fashionista foldingue ne pourrait le laisser craindre. Surtout parce qu'elle a une voix grave à la Nico, en total décalage avec son apparence d'elfe goth. Et enfin parce que l'album est produit par Tony Visconti.
Mais qui est Tony Visconti, déjà?
Alors, il ne faut surtout pas le confondre avec l'oubliable réalisateur de Mort à Venise. C'est en effet le légendaire producteur de David Bowie, qui est un jeune artiste qui débute, dont on parle pas mal en ce moment parce qu'il va exposer ses bottes à paillettes à la Philharmonie de Paris dès la semaine prochaine. Absolument. Alors je vous laisse découvrir la musique et l'incroyable clip de David Lachapelle sur le web. Mais revenons 2 minutes à la vie de Daphné Guinness et penchons-nous un instant sur son arbre généalogique. Sa grand-mère s'appelait Diana Mitford et elle est connue pour avoir épousé en seconde noces Oswald Mosley, chef du parti fasciste anglais, avec Goebbels et Hitler pour témoins. Sympa, non? C'est pas mal. À part ça, ses deux meilleurs amis, le designer Alexander McQueen et la styliste Isabella Blow, tous les deux très barrés mais surtout très dépressifs, se sont suicidés. Elle a passé son enfance entre un internat sinistre au fin fond de la campagne anglaise et à un monastère de Kadakès où elle assistait à l'agonie des homards dans la piscine de Dali. Elle a été aussi mal mariée à un armateur grec et on lui prête une liaison avec BHL. Elle est aussi l'auteur d'une maxime tellement chouette qu'on devrait la mettre sur des t-shirts. Si j'étais un mec, je serais gay, c'est dire à quel point j'aime les mecs. Bref, un destin hors du commun dans un personnage hors norme que je vous invite à découvrir dans le numéro de Vanity Fair qui sort demain, avec Angela Merkel qui est un petit peu moins perchée, quoique, en couverture.
Le rendez-vous.
Tony Visconti n'y est pour rien pour ce son. Plateau magnétique avec vous, Michel François, plasticien belge. Un parcours qui commence à la fin des années 80, entre sculpture, vidéo et photographie, performance, scénographie et même commissariat d'exposition. Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous répondez que vous vous prenez pour un sculpteur. Blague à part, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette phrase?
Blague à part alors. Non, c'est que la pratique de la sculpture, c'est un peu ringard de dire qu'on fait de la sculpture, parce que qu'est-ce que c'est que la sculpture aujourd'hui? Les arts plastiques sont ouverts sur toutes sortes de champs. Est-ce que quand on fait de la photo, de la vidéo, est-ce qu'on fait de la sculpture? Est-ce qu'on, quand on travaille avec l'espace, les installations, etc., est-ce qu'on fait de la sculpture?
Mais peut-être bien.
Comment?
Peut-être bien qu'on fait de la sculpture en travaillant la vidéo.
C'est une façon d'affirmer que...
Vous êtes sculpteur.
J'ai un rapport, a priori, s'il faut le nommer, avec cette technique, sans avoir nécessairement les contraintes que cette technique représentait avant. Donc c'est quelque chose qui a évolué, oui. Donc plasticien plutôt que sculpteur, mais au bout du compte, sculpteur
quand même. Voilà. La Verrière, fondation d'entreprise Hermès à Bruxelles, vous expose actuellement une exposition à 4 mains, imaginée avec l'artiste Anne-Véronica Jensen, titre Philae Tschuri, un mot valise hein, pour Philae, qui est l'atterrisseur de l'agence spatiale européenne, qui a été transporté par la sonde Rosetta sur la comète Tschuri le 12 novembre dernier. Ce qu'on a entendu en ouverture du plateau, c'est l'enregistrement des fréquences de résonance amplifiées de la comète Tschuri qu'on nous remet dessous. Bravo la technique. Un son qui aurait été déclencheur à cette exposition. Qu'est-ce que ce son a mis en place, en fait?
C'est pas tellement le son, c'est cet événement de cet atterrissage improbable et laborieux de cette machine qui a atteint son objectif final. Et atchourissage, il faudrait dire, a eu lieu à un moment où il fallait pour nous trouver un titre à notre collaboration là, à la Fondation Hermès. Donc ça nous a apparu comme, d'une certaine manière, correspondre à notre relation. Il y a une comète, un bout de rocher qui circule dans le système solaire depuis le Big Bang, en fait, de façon tout à fait indifférente à tout ce qui l'entoure. Et puis il y a par contre une intention Très calculé, très volontaire d'envoyer une machine se déposer dessus. Et voilà, a priori, s'il fallait identifier l'un ou l'autre, Anne-Véronica serait la comète et moi je serais l'engin spatial un peu laborieux qui essaye d'atterrir sur la comète. Voilà.
Mainfarine.
Alors justement, dans l'espace unique de la Verrière à Bruxelles, donc il y a au centre un cube monumental en goudron, en asphalte noir mat. Sur le cube, du coup, en toute légèreté et brillance, une sculpture gigantesque en papier aluminium froissé. Et autour de cette pièce centrale, un jeté de paillettes noires au sol, un cube de marbre noir avec, là aussi, un jeté de paillettes, mais plus turquoise, avec un effet plus cosmique. Une longue colonne de seaux en plastique blanc surmontée d'un projecteur, un gros rouleau d'aluminium géant et très sculptural pour le coup, planté à l'horizontale dans le mur, une fente horizontale creusée comme une longue ligne d'horizon et éclairée par un projecteur sur pied, et un grand papier peint monochrome qui occupe un large pan du mur et qui est comme déchiré, arraché à sa base. Mmh. Cette pièce-là, ce papier peint-là, c'est la seule pièce qui fasse partie de votre seul vocabulaire, c'est-à-dire toutes les autres pièces ont été réalisées à quatre mains. Mmh. Pourquoi celle-ci s'est-elle imposée, Michel François?
Elle s'est imposée plutôt en dernière minute, alors que ce n'est pas une exposition qu'on a improvisée. Loin de là, vu qu'on a été invité dans un premier temps par le curateur Guillaume Desange, curateur parisien, il y a un an, plus d'un an. Et avant d'accepter, on lui avait même demandé ce qu'on ne fait jamais. A priori, c'est quand on est invité dans une exposition, on dit oui ou on dit non. Mais dans ce cas-ci, on lui a demandé de développer ses arguments.
Une lettre de motivation.
Oui, sa lettre de motivation. Pourquoi nous mettre tous les deux dans cette circonstance de la Verrière? Parce qu'on ne voulait pas que ce soit pour les mauvaises raisons. A priori, nos travaux sont très différents d'un point de vue formel. Et... à part ça, on se connaît très bien. On avait fait la biennale, le pavillon belge de la biennale de Venise ensemble en 1999. Donc voilà. Mais donc on a attendu cette lettre. Elle a mis 3 mois à arriver. Donc jusque-là, les choses. Donc il était. Et à ce moment-là, évidemment, pas question de papier peint du tout. Par contre. On est passé par toute une série d'expositions auxquelles vous avez échappé, si vous voulez, parce qu'on connaît très très bien le vocabulaire de l'un et de l'autre et qu'on aurait pu faire une dizaine d'autres ou une vingtaine d'autres expositions et qu'il fallait donc à un moment donné choisir. Et donc là, finalement, le choix d'un titre, et c'est souvent... un moment important, le choix d'un titre même pour une œuvre plastique, après toutes ces années de 100 titres, de faire l'effort de titrer les choses. Ce titre a finalement resserré nos intentions et nous a dirigé vers cette dualité entre une matière extrêmement terrestre qui est le goudron, l'asphalte qui vient même des sous-sols, qui est le résultat d'une sédimentation terrestre, et puis l'aluminium qui est un élément qui a été envoyé par les étoiles au moment du Big Bang. C'est arrivé sur Terre comme beaucoup d'autres métaux, comme l'or par exemple, etc. Et donc d'avoir cette conjonction entre une noirceur qui fait référence au cosmos aussi bien, et cette lumière dégoulinante comme ça de l'aluminium, ça correspondait aussi à notre tempérament, et ça empruntait aussi bien son vocabulaire qu'au mien, et donc on est parti comme ça. Je ne sais pas si c'était la question. Mais...
Si, c'est la question, et moi je vais même la redoubler, cette question. En quoi la lettre de motivation que vous avez reçue 3 mois après vous a convaincu? Qu'est-ce qu'il y avait dedans qui vous a permis d'acter l'exposition?
Oui, c'est difficile à résumer, vu que c'est quand même une...
Une longue lettre.
C'est devenu... Non, mais...
C'était une longue lettre.
Longue lettre, oui, qui est publiée...
Que le commissaire donc vous a adressée, oui. Pour vous convaincre. Ouais.
Et
le point que vous reteniez, ce serait quoi?
Non, mais disons que d'une façon générale, il y avait quelque chose qui disait que, à la fois dans son travail et dans le mien, il y avait une part manquante qui se retrouvait l'un chez l'autre. Quoi. Il y avait comme des moments d'incursion dans son langage et elle dans le mien qui venaient compléter éventuellement des manques de chacun d'entre nous. Quoi, voilà.
Emmanuel Lune, vous connaissez, je crois, le travail de Michel François.
Oui, j'écoute en me souvenant de la première œuvre que j'ai vue de votre travail à Kerguéhennec, « Le monde entre nos bras ».
Le monde et les bras.
Ah, le monde et les bras. J'ai souvent dit le monde entre nos bras.
Ouais.
Parce que c'est vraiment un cercle. Enfin, on voit cette photo de j'ai l'impression qu'il y a une matière qui est photographiée.
Du plâtre.
Ouais. Et j'aimais...
Entre les bras.
Oui, c'est ça. Donc, on voit une photo donc, du plâtre. Et c'est cette partie-là, en fait, qui est nommée. Donc, le monde...
Le monde et les bras. Simplement, j'ai voulu matérialiser, si vous voulez, la capacité que les bras avaient à contenir une matière, en l'occurrence le plâtre. Et ensuite, quand on démoule le corps et les bras et le visage, d'ailleurs, parce que le visage doit être
très beau,
pris dans le plâtre également, quand on démoule, eh bien, il y a tout le monde, il y a tout le reste du monde qui vient se lever dans ces parties creuses.
Et cette empreinte qui, en fait, parle de tout le reste, qui est beaucoup plus grande que sa véritable superficie, j'avais beaucoup aimé tout de suite et j'ai quand même beaucoup regardé toutes ces années.
Je dois dire que ce titre est de façon très dérivée, inspiré d'un autre titre de Samuel Beckett, Le monde et le pantalon. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Qui est, Le monde et le pantalon. C'est tout à coup un espèce de choc de proportion comme ça, qui est intéressante. Et voilà.
Puisqu'on est dans les histoires de gestes, vous avez travaillé avec plusieurs reprises pour la chorégraphe belge Anne-Theresa de Kersmeker pour 3 spectacles, The Song, En attendant et Partita 2 en 2013. En quoi a consisté votre collaboration? Quand on travaille avec une chorégraphe, quelle est la place qu'on occupe, Michel François?
Oui, c'est une question intéressante parce que la place, elle est surtout avec une chorégraphe comme Anne-Theresa qui choisit très très bien ses collaborateurs. On sait qu'on travaille pour la grande artiste, la grande chorégraphe, et que et c'est avec plaisir parce qu'en effet, c'est très très intéressant de l'observer travailler. Mais disons que la première fois qu'elle est venue nous trouver, Anne-Véronica et moi, encore une fois, c'était en nous disant, je me rappelle très bien de la première chose qu'elle nous a dite. Elle a dit, je rêve d'un spectacle pour lequel je ne devrais me déplacer qu'avec ma valise et mes affaires. Et voilà. Donc pas de décor, pas de son, pas de musicien, pas d'éclairage, aucune de ces infrastructures qui font le spectacle vivant. Alors... J'ai trouvé que c'était aussi une bonne chose. Enfin, du coup, on a appliqué ça à la lettre avec En attendant. On a retiré la scène, on a retiré l'amplification, on a retiré la lumière. Et donc, pour marquer ça, on a fait un spectacle qui commençait en fin de journée au Festival d'Avignon sur la scène, j'oublie maintenant le nom de la scène, dans le cloître des Célestins.
Le cloître des Célestins, ça commençait donc vers
20h30 et ça finissait dans l'obscurité sans qu'il y ait d'apport de lumière. Ça n'a pas fait plaisir à toute cette équipe de régisseurs son, lumière, etc. qui accompagne la compagnie. Mais voilà, c'est ce que la chorégraphe a demandé, c'est ce qu'on a appliqué à la lettre. Après, les gens... qui me connaissait après les spectacles, mais qu'est-ce que tu as fait Tu n'as rien fait en fait, quoi. Je dis mais oui, mais ça c'est ce qui est parfois le plus difficile à faire dans les arts vivants, c'est d'imposer du silence, d'imposer du vide, etc. quoi. Donc voilà.
Emmanuel Huyghe.
Ça résonne.
Ah bah oui, notamment à une de vos premières pièces, Mua, qui se passait dans l'obscurité la plus totale.
C'est ça.
Et deuxième partie. Un éclairage tellement énorme qu'on ne vous voyait plus non plus.
Ah, c'est drôle que vous en ayez un souvenir de cet ordre, parce que il y a un des... Donc la première partie, en effet, c'est du noir total. Et puis de temps en temps, je me trouve face à du 1% d'un projecteur qui fait qu'on croit percevoir ou on aperçoit véritablement un
quelque
bout.
Quelque chose.
Ouais. Oui, quelque chose. On n'est pas sûr de ce que c'est. Et ensuite, dans cette deuxième partie qui dure... un tiers de la pièce, il y a quand même un rayon de lumière, entre guillemets, classique, qui fait qu'on voit l'entièreté du corps. Mais c'est peut-être, vous vous souvenez peut-être plutôt de la fin, où le visage est suréclairé. Mais au fond, il y avait quand même tout un moment qui était... Bon, voilà, mais c'est le travail de la mémoire.
C'est comme le monde entre les bras, c'est exactement la même chose.
Oui.
Et les bras.
Et les bras.
Le monde et les bras.
Oui, mais pour elle, c'était entre les bras, c'est pour ça. Manu, oui.
Pardon. Non, mais voilà, ça résonne aussi beaucoup quand Michel dit c'est dur ou il fallait retirer, au fond, il fallait enlever de la musique, du son, de la lumière. C'est exactement le projet de Mua. Je vais vers un éclairagiste, Yves Godin, est-ce que tu veux bien faire du noir? Je vais vers Casper Teplitz, qui était un roi de la musique post-industrielle, est-ce que tu veux bien faire du silence pour moi? Et j'étais un peu gênée de leur dire que c'était que ça que je voulais et de les employer pour ça. Et moi, je voulais arrêter d'être une danseuse technique et de surjouer la danse. Mais en effet, c'est des pièces fondatrices parce que, ou refondatrices pour Anne-Thérèse, c'est quand même une pièce extraordinaire de ces dernières années. De
parce qu'après, elle a fait Cézna avec Anne-Véronica, où c'était le contraire, oui. Ça commençait avant le lever du jour et ça se poursuivait dans la lumière.
Presque une expérience phénoménologique, on voit apparaître le monde. On travaille et on voit apparaître des visages. C'était aussi tout à fait extraordinaire.
Festival d'Avignon aussi. Manu Farine.
Ce travail, justement, Michel François, donc, avec cette chorégraphe et donc cette façon de ne rien faire, ou en tout cas de retirer, est-ce que ça a pu faire bouger les lignes? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre propre pratique de plasticien? Vous qui dites, hein, d'ailleurs, que vous êtes bien plus intéressé par l'assemblage et au fond le format de l'exposition que par la production des pièces elles-mêmes.
Mais je ne sais pas si ça a transformé mon langage, je ne crois pas. C'est une expérience très intense de travailler avec une chorégraphe comme elle, etc. Mais j'avais quand même, je suppose que si elle nous a demandé, Anne-Véronica et moi, de collaborer avec elle de façon si régulière, c'est que... Elle voyait dans nos expressions ce qu'elle cherchait par ailleurs à obtenir sur scène. Moi, dans l'atelier, je considère que l'atelier du sculpteur, c'est un endroit où, principalement, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on tourne en rond. Dans mon cas, je fume des cigarettes. J'ai les mains dans les poches. Je regarde le plafond, etc., etc. Et les moments d'action, finalement, sont rares et pas nécessairement décisifs, d'ailleurs. Et je me souviens très bien qu'en sortant de l'atelier, après une journée comme ça de oisiveté dans l'atelier, je me retourne vers l'atelier, un dernier coup d'œil. Je viens de me laver les mains, parce que c'est ce qu'on fait quand on quitte un atelier, on se lave les mains. Et je me dis, mais je n'ai rien fait. Et puis si, quand même, je vois que ce savon est un tout petit peu plus mince qu'hier... qu'il y a des traces au sol parce que j'ai tourné en rond et que d'ailleurs mes poches sont un tout petit peu plus élargies du fait de la station de mes mains dedans. Donc j'ai pris ça au sérieux. J'ai dit bon, mais ça, c'est mon travail de sculpteur. Donc les poches élargies. Donc je me suis mis à élargir les poches en les remplissant de plâtre. J'ai commencé à fabriquer des savons parce que j'aimais bien ces objets qui potentiellement apparaissaient comme des sculptures, mais qui potentiellement annonçaient leur propre disparition. Donc, en effet, un savon, si on l'use, disparaît, etc. C'est donc le point de vue que j'ai sur la sculpture, c'est des moments, de proposer des moments sculpturaux, matériels, mais dans un moment de précarité, de grande fragilité, où éventuellement on peut s'identifier en tant qu'être vivant à cette matière ou à cette présence matériel que représente la sculpture. Voilà.
Il va être question de son dans quelques instants et même de musique, mais tout de suite, on écoute le son que vous nous avez apporté. Vous en avez apporté trois, on n'en choisit qu'un, parce qu'on n'aura pas le temps. Un seul. The passage of time is flicking dimly up on the screen. I can't see the lines. Bien, vous ne connaissez pas Justin Timberlake, mais quand même, vous en connaissez d'autres. La raison de ce choix est, qu'est-ce qu'on écoute, Michel François?
On écoute Brian Eno.
La raison Golden pour laquelle Days. Vous l'avez choisi
Écoutez, je ne pensais pas qu'on allait parler tellement d'Anne-Thérèse, donc je me suis dit que c'était une occasion de tendre la perche à cette conversation. Mais c'est la musique de son dernier spectacle qui doit tourner pour l'instant. Voilà.
Le rendez-vous, la session.
La session donc du mardi aujourd'hui, Cavale.
Roby, quatre lettres pour la compositrice et interprète Chloé Robineau, née à Nice, élevée en Afrique et passée par le théâtre avant de se rendre à la double évidence de la musique et de l'écriture. Son premier album fut un grand succès, remarqué notamment par Jean-Louis Murat, dont elle a fait une première partie. Ce mois-ci sort un second opus, Cavale, ou comment mêler à des tonalités post-punk et électro des textes noirs, toujours en français, qui évoquent notamment l'ombre, le chaos, la danse. Ce soir, c'est Nuit de fête dans le studio 108 de la Maison de la Radio.
Mathieu Penaud est à la batterie, Valentin Durup à la basse, j'espère que je prononce bien, Jean-François Riffaut au clavier et guitare, et Roby est au chant. C'est à vous. Studio 108 sur Sculpture, Mathieu Penaud est à la batterie, Valentin Durup à la basse, Jean-François Riffaut au clavier et guitare. L'album La Cavale vient de paraître sous le label Les Disques de Joie. Roby sera en concert le 12 mars à Lille dans le cadre du festival Les Femmes s'en mêlent, le 13 au Manège à Lorient, le 26 à Paris au Divan du Monde et le 27 à la Carène à Brest. Et je précise que la session était filmée et que vous pourrez retrouver la vidéo sur le site de l'émission avec un inédit.
Voilà, a priori, s'il fallait identifier l'un ou l'autre, Anne-Véronica serait la comète et moi je serais l'engin spatial un peu laborieux qui essaye d'atterrir sur la comète. Voilà.
Et finalement, c'est l'œuvre moderne par excellence. Et en effet, elle est toujours un peu de travers.
Merci à nos invités. Emmanuel Huyn, Tozaï. C'est le 4 et 5 mars prochain à la MC2 de Grenoble. Le 8 avril à l'espace Malraux, scène nationale de Chambéry. Michel-François Filaé-Tchoury, c'est à la Verrière Fondation d'Entreprise Hermès à Bruxelles. Roby, vous serez en concert, Manou vient de le dire, le 12 mars à Lille, le 13 à Lorient et le 26 au Divan du Monde à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain.
All across the snow, Jekka, mud, up.
On n'a rien compris, mais demain ce sera une émission avec Jean-Jacques Haneau, donc c'est peut-être la guerre du feu, avec à ses côtés la réalisatrice Hélène Zimmer. La désannonce, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manou Farine, Aïssette Wendoy, Hippolyte Babilote, Journal de la Culture, Zoé Sfez, Chronique Vanity Fair, Anne Boulet, à la prise de son Bruno Gagnère, Fontanil et Dalia, et à la réalisation Thomas Beau.
Toujours bressonien, hein, Hippolyte. Les 19h54, vous êtes bien sur France Culture.